13-14, Bruno Duvic.
Bonjour, soyez les bienvenus. Au sommaire aujourd'hui, le conseil scientifique anticipe des centaines de milliers de cas quotidiens d'Omicron à la rentrée, avec une conséquence lourde. Le président du conseil, Jean-François Delfraissy.
La possible désorganisation de la société quand on va avoir très très nombreuses contaminations Omicron, mais qui va évidemment être source d'arrêt de travail et donc avec un impact sur la société.
Une bonne nouvelle tout de même, selon le conseil, Omicron moins dangereux que redouté. Autre message à la veille de Noël, Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, Covid encore, il appelle les Français à la vigilance.
La vigilance, c'est même si vous êtes vacciné, de vous tester vous-même ou d'aller vous faire tester avant de retrouver vos proches, en particulier quand ils sont plus âgés.
Appel aussi à respecter gestes barrières, à se faire vacciner, test, oui, mais pour une PCR, si on veut le résultat avant Noël, il faut y aller aujourd'hui, nous dira le président du syndicat des biologistes. Et l'INED en dit plus sur les effets démographiques de la crise sanitaire. Nous verrons cela avec notre invité. Dans ce journal encore, le coiffeur Franck Provost, mis en examen pour blanchiment de fraude fiscale. Il est soupçonné d'avoir utilisé un logiciel pendant plus de 15 ans. La fin d'année canon d'Airbus, le dernier Welbeck piraté, l'éditeur ne peut pas faire grand-chose. Vos rendez-vous dans le 13-14, je vous attends au standard à 13h30. Parlez-nous d'un objet de la vie quotidienne disparu qui vous tient à cœur. Vous pourrez dialoguer avec l'autrice d'un petit livre plein d'humour et de nostalgie, Les temps ont changé. Liste de tous ces objets et pratiques disparus ou quasiment au fil des décennies, de la cabine téléphonique au cendrier Martini en passant par le bidet. Chaque objet raconte un petit ou grand changement de société. Je vous attends donc 01 45 24 7000 et l'appli France Inter. Le feuilleton, une semaine dans la vie du prêtre Stéphane Lesson. Aujourd'hui avec Jérôme Cadet, la place des femmes dans l'église.
Tu rencontres ma secrétaire, c'est une femme. Tu rencontres la responsable de la catéchèse, c'est une femme. La pastorale les jeunes, c'est une femme. L'église ne tiendrait pas si les femmes n'y étaient pas.
Il y aura une femme prêtre un jour à Saint-Renan.
Pas de mon vivant.
Rendez-vous à 13h50. Avant cela, la musique avec Anna Sigalevitch. La vie serait moins belle sans Romance sans parole de Gabriel Fauré. Le 13-14, vous avez le programme, c'est parti.
France Inter. Le 13-14.
Et les derniers chiffres de l'épidémie de Covid, les hôpitaux très largement en plan blanc, mais le nombre de malades n'augmente que peu. Ils sont 3147 en soins critiques. Le nombre de places limite théoriquement aux besoins. On pousse les murs évidemment, c'est 5000. Vague de Delta, vague d'Omicron, en ville 84 000 nouvelles contaminations quotidiennes. On devrait passer les 100 000 d'ici à la fin de l'année, du jamais vu depuis qu'on mesure précisément. Et ce n'est qu'un début, manifestement. Fait inhabituel, ce matin, le conseil scientifique tenait une conférence de presse et le conseil anticipe la survenue de centaines de milliers de cas de Covid version Omicron à la rentrée et donc une explosion des arrêts de travail. Cela risque de désorganiser la société. Le gériatre Serge Guérin est membre du conseil. Il va falloir revoir les règles d'isolement.
Dans un contexte de diffusion aussi forte, vont se poser certainement des problèmes sur les secteurs stratégiques de fonctionnement de notre société, la distribution alimentaire, la sécurité, l'énergie, les transports, les communications et la santé. Et concernant le dernier secteur que je connais particulièrement bien, qui est celui de la santé, vous imaginez bien que si on n'a plus de soignants au lit du malade, même si, et on l'espère, la gravité est moins forte et qu'on a moins d'hospitalisations, mais ça peut être compensé de manière forte, malheureusement, là aussi par la vitesse de propagation, cette nécessité de revoir les règles d'éviction, la règle dite des 17 jours, hein, 7 plus 10, avec le contact, puis éventuellement la contamination, même si elle est asymptomatique, se pose là aujourd'hui.
Le gériatre Olivier Guérin, membre du conseil scientifique ce matin. Bonjour Véronique Julia.
Bonjour.
Spécialiste des questions de santé à France Inter. Alors voilà pour la touche sombre de cette conférence de presse. Il y a aussi une bonne nouvelle.
Oui, les nouvelles semblent assez bonnes en effet quant à la dangerosité du variant Omicron. Trois études sont tombées hier. Elles viennent d'Afrique du Sud et du Royaume-Uni et elles montrent toutes les trois qu'Omicron serait moins sévère. Avec ce variant, le risque d'hospitalisation serait réduit de 35 à 80% par rapport à Delta. Alors vous allez me dire que la fourchette est large, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut rester prudent. Mais quand même, les trois études vont dans le même sens. Le Conseil a par ailleurs contacté des homologues de Grande-Bretagne et du Danemark, où le variant est plus installé que chez nous. Il semblerait que dans ces pays, le Covid conduise moins souvent à l'hôpital. Par ailleurs, les patients y restent moins longtemps, vont moins en réanimation et ont moins besoin d'oxygène. Et ça dans des proportions de l'ordre de moins 50%, ce qui semble là aussi plutôt rassurant. Mais là encore, le Conseil avance avec prudence, car s'il y a des centaines de milliers de cas quotidien, il y aura quand même sans doute beaucoup d'hospitalisations. Le Conseil rappelle d'ailleurs que la troisième dose reste le moyen le plus efficace de contrer Omicron. Cette dose de rappel n'empêchera pas tant que ça les transmissions, mais elle empêchera les formes graves. À ce propos, le Conseil s'inquiète qu'il y ait encore en France 3 millions de plus de 65 ans qui n'ont toujours pas reçu leur rappel.
Autre enseignement, vous en disiez d'ailleurs un mot, Véronique, cet enseignement nous vient notamment d'Afrique du Sud, premier pays où le variant a été repéré. On le dit avec prudence, mais la vague, en effet, semble retomber assez vite. Claire Bargelès.
La courbe du nombre de cas hebdomadaires, qui s'élevait jusqu'à présent à la verticale, commence lentement sa descente. Mais la prudence reste de mise, selon l'épidémiologiste Michel Groom.
Ce sont les grandes vacances, donc il faut rester méfiant et ne pas baisser la garde en se disant que la quatrième vague aura juste été très rapide à augmenter, puis à diminuer.
Et les données collectées jusque-là par Wasila Jassat, de l'Institut National des Maladies Transmissibles, sont également encourageantes.
Alors que l'on voit le nombre de cas dépasser celui de la vague Delta, les admissions dans les hôpitaux sont moins importante et le nombre de décès a beaucoup moins augmenté par rapport à la vague précédente.
Des indices d'une moindre dangerosité confirmés par une autre étude de l'Institut, encore non validée, qui compare des patients touchés par Omicron avec d'autres malades. Mais pour Cheryl Cohen, ces résultats préliminaires ne s'appliquent qu'à l'Afrique du Sud et à sa population jeune.
Ces données ne permettent pas de déterminer si cela est dû à la vaccination, à des infections précédentes ou bien à une virulence moindre du virus. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en Afrique du Sud, l'épidémiologie est telle que Omicron se comporte de façon moins dangereuse.
Selon les scientifiques, 60 à 70% de la population sud-africaine aurait déjà été en contact avec le virus depuis le début de la pandémie. À Johannesburg, Claire Bargelès, RFI pour France Inter.
Le conseil scientifique se demande comment la société va gérer le tsunami Omicron. La SNCF, exemple tout de suite, doit annuler une série de trains régionaux en Occitanie notamment, mais pas seulement. Si vous devez prendre un TER, vérifié. Et puis la compagnie allemande Lufthansa doit elle aussi annuler des vols intercontinentaux. Trop de pilotes malades. Drôle d'ambiance tout de même à cette approche de Noël et à la veille du réveillon. Le président de la République adresse un message aux Français sur les réseaux sociaux. De quoi parle-t-il ? Covid, Covid, Covid.
Bonjour à tous. Je vous retrouve en cette veille de Noël. En effet, ce sont des moments de partage en famille ou entre amis. Mais cette année, une fois encore, à cause du virus, je vous demanderai d'avoir beaucoup de vigilance pendant ces fêtes. Alors la vigilance, c'est évidemment de continuer à avoir nos gestes barrières. Dès qu'il y a des symptômes, nous isoler et nous tester. C'est, même si vous êtes vacciné, de vous tester vous-même ou d'aller vous faire tester avant de retrouver vos proches, en particulier quand ils sont plus âgés. Et puis c'est également d'aller vous faire vacciner. Faites-le pour vous, faites-le pour vos proches et nous sommes organisés pour cela. Voilà le message que je voulais vous passer en vous souhaitant un joyeux Noël. Et en ayant une pensée, un message tout particulier pour celles et ceux d'entre nous qui seront dans nos hôpitaux, dans nos forces de sécurité civile, dans les centres de vaccination, partout où dans notre pays on prend soin des autres dans cette période. Joyeux Noël à vous aussi et merci pour votre engagement.
Emmanuel Macron qui, par ailleurs, dans une tribune conjointe avec le président du Conseil italien Mario Draghi, appelle à ce que des marges de manœuvre budgétaires soient dégagées en Europe pour les investissements nécessaires à la souveraineté européenne. Se tester donc, dit le président, même si l'on est vacciné, encore faut-il trouver un créneau ou des autotests disponibles et ne pas s'y prendre trop tard. Dans les laboratoires, on est à 6 millions de tests de dépistage par semaine, antigénique à 60%, PCR à 40% selon le président du syndicat. Et François Blanchecotte ajoute, pour une PCR en particulier, il ne faut pas s'y prendre trop tard.
On a effectivement beaucoup de gens, et je pense que c'est dû à la vague Omicron, ils veulent vraiment se faire dépister pour être en famille, pour les fêtes. Ça commence maintenant parce que, en fait, évidemment, si vous venez le soir ou l'après-midi du 24, vous n'aurez pas forcément votre résultat, même si on a réussi à réduire les délais, des fois à moins de 7 heures, pour rendre les résultats, c'est quand même difficile. Donc, il faut s'y prendre au moins aujourd'hui. C'est difficile parce que beaucoup de nos collègues aussi infirmières, par exemple, sont retournés sur les centres de vaccination. Nous avons essayé de prendre des étudiants, nous avons essayé de prendre tout ce que nous pouvait faire la législation de façon à avoir des effectifs qui correspondent évidemment au nombre de personnes que nous avions besoin, donc des personnels administratifs pour enregistrer et des préleveurs.
Le président du syndicat des biologistes François Blanchecotte sur France Info. La ville de Lourdes met 4000 kits d'autotests à disposition de ses habitants. Pas assez de tests, la France insoumise Insoumise et la députée écologiste Delphine Batteau dénoncent l'imprévoyance du gouvernement. Omicron continue de galoper. À l'instant, en Espagne, la justice autorise un couvre-feu en Catalogne. Omicron dominant au Danemark, au Portugal, au Royaume-Uni, de l'autre côté de la Manche. Population équivalente à celle de la France, 106 000 nouveaux cas quotidiens, ce sont les derniers chiffres. Alors les réponses aux attaques du virus en France, la vaccination des enfants lancée hier, le développement du télétravail, au moins un jour de plus là où c'est possible à la rentrée, objectif 3 à 4 jours par semaine. Et puis le pass vaccinal, vite, pas de trêve pendant les vacances. Conseil des ministres lundi, premier examen au Parlement en commission la semaine prochaine. Bonjour Maxence Lambrec.
Bonjour.
Cela veut dire que le Conseil d'État travaille déjà sur le texte. Vous vous êtes procuré le projet de loi.
Oui, 7 pages, 3 articles et comme prévu, pas la moindre trace d'un pass sanitaire en entreprise. Mais 4 paragraphes intéressants. Le premier, en cas de doute, les personnes qui contrôlent votre pass pourront vous demander votre pièce d'identité. Si le serveur voit Micheline s'afficher sur son téléphone alors qu'il a un monsieur devant lui, il pourra lui demander sa carte d'identité, explique Matignon, exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, pour la vente d'alcool quand il a l'impression d'avoir un mineur accoudé au bar. Ce ne sera pas juridiquement un contrôle d'identité, mais une vérification. Deuxième nouveauté, un peu de tolérance. Pour ceux qui reçoivent en ce moment leur première dose et travaillent dans un lieu qui nécessite le pass sanitaire, cette première dose vaudra passe vaccinal jusqu'à l'achèvement de leur schéma complet. Troisième précision, l'accès aux hôpitaux, aux cliniques plus largement, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux restera possible avec un simple pass sanitaire et donc un test. Aller rendre visite à sa grand-mère dans un EHPAD ne nécessitera pas d'être vacciné si le texte est adopté en l'état bien sûr et évidemment pas de passe pour les urgences médicales. Quatrième élément, pas de passe non plus dans les transports en commun. Le gouvernement a presque fait un copier-coller. Les lieux où il fallait le pass sanitaire, il faudra le pass vaccinal. Donc resto, bar, activités de loisirs, salons professionnels et transports interrégionaux.
L'examen est prévu dans l'hémicycle à l'Assemblée dès la rentrée, le lundi 3 janvier, ce qui permettrait une entrée en vigueur autour du 15. Au-delà de la majorité, la droite LR et les socialistes s'apprêtent pour l'instant à voter pour, Rassemblement National et Insoumis contre. Et quels sont les effets démographiques de la crise sanitaire? L'Institut National d'Études Démographiques, INED, publie une note à ce sujet en ligne avec nous. Didier Breton, chercheur associé à l'INED et professeur de démographie à l'Université de Strasbourg. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Alors pendant le confinement, les couples, les familles étaient réunis sous le même toit, mais manifestement, ils n'en ont pas profité pour faire des bébés, au contraire.
Oui, tout à fait, oui. Alors, la première affirmation, elle n'est pas certaine. Sous le même toit, il y a un certain nombre de couples qui n'ont pas pu cohabiter.
Oui.
Mais en tout cas, tout laisse à penser, ou en tout cas nos chiffres, qui sont des mesures réelles, montrent qu'en effet, le nombre de conceptions a été plus faible. Et ça s'est traduit à la fois en termes de nombre d'IVG, quelques mois après le premier confinement, et surtout en termes de nombre de naissances, 9 mois après ce confinement.
Nombre de naissances au plus bas l'année dernière, 736 000 au plus bas depuis 45, et en effet très bas aussi en ce début d'année, en effet pile 9 mois après le confinement. Vous me disiez pas tous forcément sous le même toit, parce que notamment il y a une baisse de natalité chez les moins de 25 ans, qui sans doute ne pouvaient pas être réunis, et chez les plus de 40, pour quelle raison chez les plus de 40?
Alors les plus de 40, c'est une hypothèse forte, Il y a peu de naissances au-delà de 40-45 ans, mais très probablement que l'accès au système de, enfin à la procréation médicale assistée à l'hôpital a joué un rôle important. Mais c'est surtout la baisse, en effet, comme vous le disiez, des moins de 25-30 ans, les jeunes actifs qui nous a particulièrement marqués.
Alors 736 000 naissances seulement l'année dernière, et Didier Breton, une forte hausse de la mortalité.
Forte hausse de la mortalité qui est connue, qui est difficile à mesurer, mais maintenant qui est évidente et indéniable, qu'on essaie de mesurer de quelle que soit la manière, on observe toujours cette surmortalité. Avec un effet souvent dans les crises, c'est pas la première crise, cette crise du Covid, on a un effet, ce qu'appelle notre collègue Magali Barbieri, un effet de moisson dans l'article, c'est-à-dire l'année d'après, une baisse de la mortalité. Mais là, la durée de la crise fait qu'en 2021, on n'a pas eu cette baisse de la mortalité, donc une augmentation forte de cette mortalité.
2020, 668 900 décès, plus 9,1%. Du coup, si on prend les chiffres 2020, le solde naturel reste positif, mais au début de l'année 2021, il devient négatif. Naissance moins décès, c'est une première depuis l'après-guerre, c'est ça?
Oui, tout à fait. Et même dès le dernier trimestre de 2020, c'est-à-dire du fait de la mortalité forte, et au premier trimestre 2021, on a eu une période inédite qui est partagée, qui est connue dans d'autres pays européens, dans beaucoup de pays européens, un solde naturel négatif, mais qui est vraiment inédit en France.
Autre tendance lourde accentuée par le Covid, la baisse du nombre de mariages et forcément en 2020, le décalage de la date des mariages.
Oui. Alors une baisse, c'est d'ailleurs le chiffre en relatif qui baisse le plus, hein, moins 30% de mariages en France en 2020, qui est aussi révélateur, alors qui s'inscrit dans une tendance longue, hein, de baisse du nombre de mariages, qui était déjà très forte en 2019 et qui s'est accentuée en 2020, mais qui montre aussi l'aspect symbolique du mariage, puisqu'on a préféré décaler, puisque des grandes réunions étaient impossibles, voire interdites, donc on a décalé, alors probablement avec en 2021 un petit regain, en effet, lié au décalage d'un an.
L'année dernière, on s'est marié en octobre plutôt qu'à l'été. Encore un point, Didier Breton, la baisse du nombre de titres de séjour délivrés l'année dernière, moins 21%. Quelle catégorie de titres de séjour en particulier ?
Alors les titres de séjour, ils sont surtout liés au mouvement professionnel. Enfin, a priori, ça c'est les statistiques du ministère de l'Intérieur. Hein. Pour des raisons professionnelles, un peu familiales, mais aussi des titres de séjour liés à des séjours d'étudiants en France.
Faut-il rappeler que les frontières étaient fermées.
Tout à fait.
Un tout petit mot, si vous le voulez bien, vous qui êtes spécialiste de démographie, de l'Inde, parce qu'on a eu ces dernières heures des informations intéressantes concernant l'Inde. Baisse du taux de fécondité sous le seuil de remplacement dans ce pays qui est le deuxième plus peuplé au monde, la démographie indienne ralentit.
Tout à fait. Alors c'est ce qu'on voyait. Alors contrairement avec l'autre grand pays démographique qu'est la Chine, on voyait que l'accroissement démographique de l'Inde était bien supérieur à celui de la Chine, avec un probable rattrapage, voire dépassement de la population. Et en effet, c'est la transition démographique aussi qui est forte et qui s'inscrit. Et donc l'Inde finalement va rejoindre la plupart des pays et va probablement ne plus être une exception.
1,4 milliard d'habitants aujourd'hui, et du coup l'Inde deviendrait le pays le plus peuplé du monde plus tard que prévu en 2030. Une chose, plus d'hommes que de femmes, 1020 femmes pour 1000 hommes, c'est le signe que la culture patriarcale recule.
Oui, tout à fait. Ouais. Alors les études, c'est très localisé en Inde, je suis pas du tout un spécialiste de l'Inde, mais en effet, il y a ces effets-là qui jouent fortement. Juste pour dire, pour l'effet du Covid, il y a des pays où au contraire la natalité a augmenté, puisque cette crise sanitaire a rendu un accès difficile aux moyens de contraception. Ouais. Donc ce qui est la réalité en Europe ou dans les pays du Nord n'est pas forcément celle des pays du Sud.
Merci Didier Breton d'avoir répondu à nos questions. Chercheur associé à l'INED, professeur de démographie à l'Université de Strasbourg.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvy.
C'est peut-être le nom le plus célèbre dans le monde de la coiffure. Franck Provost a de grands ennuis, de gros ennuis, avec le fisc et la justice. Il a été mis en examen mardi à Nanterre pour abus de biens sociaux et blanchiment de fraude fiscale. Bonjour Ariane Grissel.
Bonjour.
Il est soupçonné d'avoir utilisé pendant plus de 15 ans un logiciel pour cacher une partie de ses recettes au fisc.
Ah oui, l'administration fiscale est alertée en 2017 via plusieurs signalements de l'utilisation de ce logiciel dans une partie des salons de coiffure du groupe. Un logiciel destiné à l'origine à un usage tout à fait légal. Le commissaire divisionnaire Sandrine Deliard est chef adjointe de l'OCLIF, l'Office de police judiciaire dédié à la lutte contre les infractions financières et fiscales, chargée de cette enquête.
Ce sont des logiciels de caisse qui permettent la gestion de la comptabilité. Ils sont dits permissifs parce qu'ils permettent une correction de la comptabilité jusqu'à sa clôture. Là où le logiciel devient ce que nous, on préfère appeler un logiciel frauduleux, c'est lorsqu'il donne la possibilité de modifier la comptabilité officielle arrêté après sa clôture.
Une option nettement moins légale qui permet de faire disparaître des radars une partie des paiements en espèces.
Admettons, 10% des paiements en espèces d'un seul coup disparaissent de la comptabilité officielle et le logiciel va travailler sur la comptabilité, recréer des tickets de caisse afin de rebalancer les montants et de faire en sorte que la manipulation de retrait d'espèces n'apparaisse plus. Ça vous permet à la fois de minorer votre chiffre d'affaires et donc au niveau fiscal de ne pas être imposé à hauteur du chiffre d'affaires réel et dans le même trait de temps de blanchir ces espèces.
Ce dossier pourrait s'avérer conséquent en termes de pertes pour le fisc, puisque à ce stade, le préjudice est estimé à plusieurs millions d'euros. L'avocat de Franck Provost affirme que son client est serein, n'a rien à se reprocher et met en cause l'ancien directeur financier du groupe, également mis en examen dans cette affaire.
Derrière la voix de Vladimir Poutine, allait-on entendre encore plus nettement le bruit des pas de ses soldats amassés à la frontière avec l'Ukraine? Selon l'agence de presse russe Interfax, des paras vont effectuer dans les jours à venir des exercices aéroportués à cette frontière et en Crimée, annexée par la Russie il y a 7 ans. La voix de Poutine, c'est le président russe qui tenait sa conférence de presse annuelle ce matin.
Tous les projets de développement d'infrastructures, de politique sociale, de santé, tout cela n'aura pas de sens si nous entrons en guerre. Ce n'est pas notre choix, ce n'est pas ce que nous voulons. Et c'est pour ça que j'ai répondu positivement au président Biden, qui a proposé de nommer des représentants pour mener des conversations sur des questions de stabilité stratégique. Il est clair que la stabilité est un des éléments importants. Nous devons comprendre comment notre sécurité va être assurée. C'est pour cela que nous avons posé cette condition. Il ne doit pas y avoir d'élargissement de l'OTAN à l'Est.
Vladimir Poutine ce matin. Bonjour Sylvain Tronchet.
Bonjour Bruno.
En direct de Moscou, au fond, le ton est un peu à l'apaisement, mais le président russe ne cède pas un pouce de terrain.
Oui, c'est un peu ça, hein. La main ferme, on est au Kremlin hein, quand même, mais la main tendue aussi, c'est le sens du discours qu'adopte Vladimir Poutine ce matin devant la presse. Autant il y a deux jours, devant son état-major, en direct à la télévision, mais seulement à la télévision russe, le chef du Kremlin avait eu des propos extrêmement belliqueux, extrêmement va-t-en-guerre même, peut-on dire. Autant aujourd'hui, dans un exercice qu'il affectionne, face à 500 journalistes, la presse mondiale est présente, et dans un exercice qu'il sait scruter dans le monde entier, effectivement, eh bien, le chef de l'État russe a pour souci, manifestement, de descendre d'un ton, mais tout en rappelant sa revendication, pas un pouce d'élargissement de l'OTAN vers l'Est, a-t-il martelé. Malgré tout, il l'a redit ce matin, la Russie n'est pas en colère. La seule question à laquelle il n'est pas répondu, finalement, c'est que se passe-t-il si les négociations qu'il évoque oui. hein, avec les Américains n'aboutissent pas. Doit-on, dans ces cas-là, redouter un conflit? La seule certitude qu'on ait, et ça, ce sont ces mots, c'est que si guerre, il doit y avoir autour du dossier ukrainien, ça ne sera pas pour la semaine prochaine.
Sylvain Tronchet en direct de Moscou, alors que la conférence de presse est toujours en cours, Sylvain?
Oui, tout à fait. Ça dure depuis 3 heures maintenant. Il y en a peut-être encore au moins pour 2 heures.
C'est bien noté. Elle a lieu, cette conférence de presse, le jour où l'ONG russe, la plus emblématique, passe au tribunal. Le centre des droits humains de l'ONG Mémorial est menacé de dissolution. Aux États-Unis, Joe Biden, 79 ans, si Donald Trump se présente, eh bien, cela augmenterait les chances que je me présente également à la prochaine élection. Propos tenus sur ABC. Un mot de la campagne électorale en France. Parlerez-vous de la présidentielle lors des fêtes de Noël? Pour marquer des points au moment de la bûche, La République En Marche fournit à ses sympathisants un bingo. De quoi s'agit-il, Laurence Perron?
Ça se présente comme un vrai bingo, une grille, 16 cases, avec des interrogations du genre « À quoi ça sert l'Europe? Alors le travail? Mais c'est quoi votre bilan? Ou encore, t'es vacciné ?» Les réponses ont été fourbies par les équipes de Stanislas Guérini, le patron du parti présidentiel, en mode très premier degré. L'idée est d'être armé pour des discussions politiques qui ne doivent pas tourner Festen, mais Macron conviction. On vous expose la situation, votre tante, son manteau à peine enlevé, commente le coût de l'essence et la hausse du prix de la vie en général. Alors là, vous piochez dans l'argumentaire. Quelqu'un qui touche le SMIC a vu son pouvoir d'achat augmenter de 170 euros. Si vous ne l'avez pas encore remarqué, c'est que la perception est parfois en retard sur la réalité. Bingo. Allez, on rejoue. Un jeton sur « On est les rois de l'impôt en France ». Dans l'absolu, votre oncle a raison. Pendant longtemps, il y avait trop d'impôts en France. Mais grâce aux réformes d'Emmanuel Macron, c'est la première fois depuis 20 ans qu'un gouvernement diminue autant la pression fiscale. Rebingo. Et ainsi de suite, sur l'écologie, le travail, la sécurité, les jeunes, génération pas sacrifiée. On attend avec curiosité comment l'opposition va s'emparer de ce bingo.
Et vous, pour ceux que cela intéresse, vous pouvez le trouver en ligne ou sur les réseaux sociaux. Parmi les débats qui animeront la campagne électorale, les choix énergétiques pour les décennies à venir. Quelle part pour le nucléaire et les énergies renouvelables? Emmanuel Macron a récemment réaffirmé le choix du nucléaire avec l'annonce de la construction de nouveaux réacteurs. En Belgique, en miroir du débat en France, un choix différent, Delphine Simon, fermeture des centrales en 2025.
Oui, la Belgique fait une croix sur le nucléaire, c'est ce que prévoyait la loi belge depuis 2003, mais sous condition. Les 7 réacteurs belges regroupés sur 2 sites, près d'Anvers et de Liège, seront arrêtés en 2025, mais le nucléaire fournit plus de 40% du courant outre-Quiévrin. Après 2025, la Belgique pourra compter sur le gaz et sur les renouvelables. Une nouvelle centrale à gaz est également en projet, mais on ne sait pas si elle sera disponible. disponible à temps. En cas de doute, l'option nucléaire serait donc réactivée. C'est ce que prévoit l'accord trouvé la nuit dernière. Les libéraux entendent prolonger la durée de vie de deux réacteurs les plus récents. Une option à laquelle Engie a déjà fermé la porte. Pour les énergéticiens qui opèrent les réacteurs belges, c'est trop tard pour des raisons de permis de construire et de combustible. Le gouvernement belge, lui, prévoit une clause de revoyure au mois de mars. Mais dans tous les cas, Bruxelles ne souhaite pas abandonner totalement le nucléaire et va investir 100 millions d'euros dans les SMR, les mini-réacteurs de nouvelle génération, une technologie au stade de la recherche.
Les précisions de Delphine Simon. Allez, il y a au moins une entreprise où l'on se réjouit en cette fin d'année. C'est Airbus. Merci les clients français, ou en partie français. Après la centaine d'avions commandés par Air France KLM il y a quelques jours, les hélicoptères. L'armée française en achète 169 des hélicos Guépard. Avec les services, ça fait un contrat à 10 milliards d'euros. Bonjour Laurent Kramer.
Bonjour.
Et ça donne pour Airbus une très bonne année 2021.
Oui, si je vous dis, Bruno, que les gazelles, les alouettes, les dauphins et les fennecs vont disparaître et que c'est une bonne nouvelle. Place au Guépard, donc, ce nouvel hélicoptère militaire d'Airbus livré d'ici 2030 et digne d'un James Bond. 169 Guépards commandés par l'armée française qui vont donc remplacer du matériel datant parfois d'une quarantaine d'années. Ce sont les noms que je viens de citer pour des missions de surveillance high-tech dotées de systèmes d'observation longue distance fournis par Safran, mission d'infiltration des forces spéciales. Cette annonce arrive donc à pic pour Airbus, dont les commandes d'hélicoptères avaient chuté de 20% avec l'effondrement du marché mondial des hélicoptères depuis la crise sanitaire. Ces 169 appareils commandés par l'armée française vont donc sécuriser l'activité du site de Marignane pour une quinzaine d'années, ainsi que la centaine de PME françaises qui travaillent pour Airbus Hélicoptères. L'armée estime que la commande va générer plus de 2000 emplois durablement localisés en France.
C'est à la fois de l'économie et de la littérature. Le nouveau livre de Michel Houellebecq sort le 7 janvier en librairie. Il s'appelle Anéantir. Alors Anéantir, on n'est pas là, mais tout de même un vilain coup pour Flammarion. Des copies pirates du livre circulent déjà. Que peut faire l'éditeur Flammarion en réponse à cela? Eh bien, réponse de l'avocate spécialiste de la propriété intellectuelle Isabelle Weckstein, pas grand-chose.
Il y a deux angles d'attaque. Il y a tout d'abord celui de la contrefaçon en droit d'auteur, parce qu'il n'y a aucun doute sur le fait que la reproduction et la diffusion sans le consentement de l'auteur et de l'éditeur constituent un acte de contrefaçon au regard du code de la propriété intellectuelle. Je rappelle que la contrefaçon, c'est puni de 3 ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Donc ça, c'est un premier angle. Et puis, il y en a un deuxième qui est plutôt le terrain de la cybercriminalité. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en pratique? C'est une course contre le temps. Vu la rapidité avec laquelle les infractions se propagent sur les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est extrêmement compliqué de rattraper de vitesse les auteurs des infractions, mais je pense que faut pas baisser les bras. J'imagine que Flammarion va quand même déposer une plainte soit au parquet auprès du procureur de la République, soit directement auprès des services de police, où il y a des équipes qui peuvent agir pour identifier les sites, et l'objectif c'est de les faire fermer.
Les propos recueillis par Ilana Moriousef. Les joueurs du championnat de France de football sont en vacances pour quelques jours. La 19e journée se disputait hier soir. Alors quel bilan de cette première partie de championnat? Qui est en tête? Le PSG évidemment. Qui est dernier? Saint-Étienne, on dirait presque évidemment, tant l'équipe ne va pas bien. Qui est second? Qui est deuxième? Ça, c'est la surprise de l'année. Nice. Nice qui a gagné hier face à Lens, 2-1. L'entraîneur Christophe Galtier.
Voilà, on bascule avec 33 points, c'est bien, mais ça aurait dû être mieux, et notamment à domicile. La place de second, pour moi, est très anecdotique. On a 33 points. Ce n'est pas moi à juger si c'est un bon parcours ou pas. Il y a maintenant ce qui va se passer sur la deuxième partie de saison, et c'est là qu'il faut regarder, il faut pas regarder en arrière. Il y a la CAN qui arrive. Il y aura des départs importants. Mario, Hicham Boudaoui et évidemment Youssef. On va les avoir absents pour entre 6 et 7 matchs. C'est une période importante pour l'équipe. Voilà, on va voir ce que le club va pouvoir faire, non pas pour compléter l'effectif, mais pour l'améliorer. Parce que maintenant, quand vous êtes second, ou du moins que vous êtes dans le bon wagon, qu'est-ce qu'on fait?
Nice, deuxième du championnat, à 13 points du PSG. C'est Marseille qui occupe la troisième place du podium. Dans un instant, la météo.
La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Il est donc important de faire une dose de rappel pour continuer à se protéger et à protéger les autres. Quand faire sa dose de rappel? Dès 5 mois après la dernière injection ou infection Covid pour toutes les personnes de 18 ans et plus. N'attendez pas. Prenez rendez-vous chez un professionnel de santé près de chez vous ou sur www.sante.fr. Tous vaccinés, tous protégés. Ceci est un message du ministère des Solidarités et de la Santé.
Tu sais comment un vrai connaisseur comme moi choisit un foie gras ?
Bah tu regardes s'il est du Sud-Ouest.
Ah, tu es connaisseur toi aussi ?
IGP Canard à foie gras du Sud-Ouest, Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy. Campagne réalisée avec le soutien financier de l'Union Européenne et de la région Occitanie.
Le temps de ce jour.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Bonjour Elodie Calac.
Bonjour à tous.
Changement de temps par l'ouest, Elodie, et nette hausse des températures.
Oui, belle hausse en effet. On attend 6 degrés à Lille et à Strasbourg cet après-midi, 7 à Dijon, 9 degrés à Cherbourg ou à Paris. Il faisait 0 degrés hier après-midi. 11 degrés à Vannes, Lyon ou Montpellier, 15 à Bordeaux, à Ajaccio, 17 à Biarritz. On a des nuages qui s'imposent tout de même sur le nord-ouest, le nord de la Seine, le Grand Est. Quelques pluies sur la Bretagne, les Pays de la Loire et la Basse-Normandie avec un vent de sud-ouest jusqu'à 60 km à l'heure. Autour de la Méditerranée, là c'est le vent de sud-est qui apporte beaucoup de nuages, quelques pluies également. On trouve des éclaircies vers les Alpes-Maritimes et vers la Haute-Corse. Et puis partout ailleurs, c'est agréable, Bruno. Le soleil est là, il revient même en région parisienne. Demain, ce sera couvert et parfois pluvieux sur la moitié nord, sur le sud-est également. Et puis on trouvera des éclaircies sur un quart sud-ouest et tout ça dans la douceur.
Elodie Calac, Météo France, merci beaucoup. Il est 13h30, allez, promenons-nous dans les rues, voir s'il ne reste pas une cabine téléphonique.
France Inter, le 13-14, Bruno Duvic.
Et figurez-vous que les professeurs agrégés d'allemand ont beaucoup d'humour et aiment parfois prendre des chemins de traverse. C'est une balade dans un univers disparu que nous propose l'une d'entre elles. Le livre s'appelle « Les temps ont changé ». Il recense une trentaine d'objets, de pratiques disparues ou quasiment aujourd'hui. Est-ce que ces petites disparitions à peine remarquées disent de l'évolution de nos paysages, nos rues, nos maisons, notre société ? La cabine téléphonique par exemple, mais aussi l'horloge parlante, le filet à crevettes, les bigoudis, la formule de politesse, la gamelle de l'ouvrier, le bénitier des familles catholiques, le serre-tête. À chaque chapitre, une description, parfois une photo de l'objet, et plus encore l'évocation du monde dans lequel il s'insérait. En quoi un monde sans boîte à compas, sans bidet, sans canne, sans cendrier martini est-il différent ? Petit jeu, appelez-nous au 01 45 24 7000 ou laissez-nous un message sur l'appli France Inter. Quel objet, quelle pratique disparue vous revient en mémoire ? Qu'est-ce qui s'est perdu avec lui ? J'ai déjà un message de Sébastien, nostalgie des cassettes audio au chrome et leur odeur chimique inimitable fournie dans leur superbe boîtier cristal. Bonjour Arlette Camion.
Bonjour monsieur.
Docteur S-Lettres, agrégé d'allemand donc, maître de conférence honoraire et autrice de ce livre « Les temps ont changé ». Pourquoi vous êtes-vous mise à faire cette liste d'objets disparus ? Qu'est-ce qui a déclenché cela ?
Oh, c'est une longue histoire. Je pense que c'était plutôt le confinement. On s'est retrouvé un peu isolé, un peu loin de tout, et puis en se demandant ce que devenait le monde. Ouais. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là ? Regardons un petit peu du côté de mon enfance, comment c'était. Et j'ai voulu un peu évoquer ça, ces objets, plutôt que de me poser de grandes questions, parce que c'est plus facile, bien sûr, d'évoquer les objets. Alors j'ai pris des objets, comme vous avez dit, cocasses ou anodins, et puis j'ai regardé ce qu'ils étaient devenus, s'ils avaient disparu, s'ils avaient laissé un vide, et ce que ça signifiait en quelque sorte.
Et certains reviennent comme la couchette, par exemple, pour le train de nuit, puisqu'on est en train de rouvrir des lignes de nuit. Je n'ai jamais réussi, au fil du livre, enfin j'ai ma petite idée quand même, à savoir si vous étiez dans l'humour, la nostalgie, vous slalomez un peu entre tout cela. Vous écrivez dans l'introduction, la vieillesse c'est le temps des sidérations, s'apercevoir tout d'un coup qu'on est dépassé, brutalement c'est là, je ne comprends plus. C'est au moment du confinement que ça s'est cristallisé ?
Oh, je pense que ça a été une expérience un peu partagée avec tout le monde, à ce moment-là. Bon, vous savez, les vieux, de toute façon, ils comprennent pas grand-chose au monde. Ça se reproduit à chaque génération. Enfin, notre génération a été quand même confrontée à des changements, des bouleversements absolument fabuleux.
Allons-y sur les objets avant d'aller au standard, parce qu'il y a beaucoup d'appels. Tout ce qui traduit au fond l'accélération, alors partons de l'horloge parlante qui existe toujours, mais avant elle donnait l'heure toutes les 30 secondes, aujourd'hui toutes les 10 secondes, ça raconte l'accélération du temps et de toute façon aujourd'hui Arlette Camion, l'heure est partout, on n'a plus besoin d'horloge parlante.
Ah non, on n'a plus besoin d'horloge parlante. J'étais même très, très étonnée qu'elle existe encore.
Oui.
Hein, parce qu'on la compulse jamais. On n'a pas du tout l'occasion d'aller soulever le téléphone pour demander l'heure. Elle est partout, comme vous venez de dire. Et c'est très significatif qu'elle soit partout aussi.
Et ça raconte aussi, dans le même chapitre, vous évoquez la disparition de cet objet, la montre à gousset, qu'on sortait lentement parce qu'on avait le temps de regarder l'heure. Et vous écrivez, je ne sais pas exactement quand la durée devint ringarde. On se mit à tout chronométrer. Les cadences des ouvriers, l'attente au téléphone, l'anxiété a pris des allures exponentielles. Et puis, on en revient au confinement qui nous a redonné le sentiment du temps. Allez, nous allons au standard. Bonjour Bérénice.
Bonjour.
Un objet dont vous êtes nostalgique.
Oui, alors moi je regrette le papier bleu à mon époque dont on couvrait les fournitures scolaires.
Ouais.
La première fois, c'était mes parents qui le faisaient avec moi et c'était déjà une leçon de respect pleine d'enseignements. Bien centrer l'ouvrage, tenir compte de son épaisseur, sans scotch, bien marquer la pliure du pouce et de l'ongle, et cela conférait à l'objet toute sa valeur, durable puisqu'il passait dans les fratries, son contenu, sa transmission, le respect en un mot. N'emballons-nous pas les cadeaux. Celui-ci m'était fait par mes parents pour accéder au savoir par la plus belle chose, l'écriture reçue et donnée. Et quand on me prête un livre, je m'empresse de le couvrir avec du papier. Et j'ai alors 6 ans et mes parents me guident la main.
Merci beaucoup pour ce témoignage. On voit qu'à chaque objet disparu, il n'y a pas seulement l'objet, mais plein de choses qui cela raconte beaucoup de choses. Alors, il y a des objets ou des pratiques liées à l'univers scolaire, hein, dans le livre Arlette Camion, le buvard par exemple.
Ah oui, le buvard a complètement disparu.
Oui.
Mais l'écriture s'est complètement transformée, elle aussi. Hein, elle est complètement mécanisée. Elle se balade un peu partout sur la planète. C'est absolument plus le même rapport avec l'écriture.
Le gaffio aussi, et ce qui est intéressant, alors le gaffio, c'est le dictionnaire latin-français, je pense qu'il existe toujours quand même, le gaffio.
Ah oui, il existe toujours, mais il n'est plus tellement en usage. Beaucoup moins de petits écoliers sont obligés de passer des heures dans les gaffios.
Autre témoignage au standard, Brigitte à Marseille. Bonjour Brigitte.
Bonjour Bruno.
Nous vous écoutons.
Eh bien moi j'ai pensé à l'anti-montelet. C'était un petit cercle de verre qu'on mettait au fond de la casserole quand on faisait bouillir du lait. Et quand il commençait à tapoter au fond de la casserole, ben, c'était pour éviter que le lait déborde de la casserole.
Anti-montelet, ça, vous vous souvenez de ça Arlette Camion? Merci Brigitte.
Oui. Oui, 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 bien sûr. Toutes les ménagères avaient un anti-montelet dans la cuisine.
Alors, il y a deux choses que moi, je ne connaissais pas, pardon, dans votre livre. Le manche à gigot.
Ah, vous ne connaissiez
mais
pas
non,
le
mais non, je
ne
connaissais pas.
Gigot.
Qu'est-ce que c'est qu'un manche à gigot, je suis navrée.
C'est très emblématique des maisons bourgeoises, voilà. Le manche à gigot. C'était une espèce de petit embout qu'on mettait sur l'os du gigot, ce qui permettait au maître de maison de se lever, de se saisir de la main gauche de ce manche à gigot et de découper avec la main droite les tranches de gigot tout à fait succulentes. Il faisait ça de façon très solennelle et vous voyez, c'était d'un très grand raffinement.
Et il y a une série d'objets qui nous disent au fond que les classes sociales n'ont sans doute pas disparu, mais qu'elles s'affichent moins. Par exemple, le serre-tête des jeunes filles comme il faut, c'était l'équivalent de la casquette molle de l'ouvrier. Chacun s'affichait clairement et aujourd'hui, ça n'est plus le cas.
Il me semble que c'est plus difficile de repérer l'origine sociale ou bien l'appartenance sociale des gens dans la rue.
Ouais. Toujours au standard, Philippe. Bonjour Philippe.
Oui, bonjour.
Nous vous écoutons.
Alors moi, c'est pas un objet qui a disparu, mais c'est une émission. L'objet a continué d'exister, c'est une radio, c'est celle que j'écoute quotidiennement depuis que j'ai 5 ans, c'est la vôtre. Et donc j'ai été biberonné à France Inter, et tous les mois de juillet, de 5 ans à 15 ans, j'allais en vacances chez mes grands-parents qui étaient au bord de la mer, sur la côte de Jeanne, entre Pornic et la pointe Saint-Gilda, et mon grand-père pêchait de temps en temps, et il écoutait une émission super importante pendant laquelle il fallait qu'on fasse absolument aucun bruit, c'est la météo marine.
Ouais, je vous voyais
bien. Et la météo marine, j'ai appris des mots incroyables. Forties, vikings, je voyais des hordes de barbares arriver sur les côtes de Pornic, Shannon, Sol, etc. Il n'y avait pas Internet à l'époque, je ne savais absolument pas dans quel univers j'étais projeté. Mais un jour, j'ai appris que cette émission allait disparaître de la bande FM de France Inter. Et là, j'ai eu comme un coup au cœur parce que je me suis dit que c'était une part de mon enfance qui disparaissait. Et s'il France Inter pouvait me faire le plus beau des cadeaux de Noël, ce serait demain matin, demain soir, même après-demain, de diffuser un bulletin de météo marine sur la bande modulation de fréquence. Alors, Merci beaucoup.
Je crois que vous êtes nombreux dans ce cas-là, ça relève pas de moi, mais je prends bonne note et on embrasse Marie-Pierre Planchon. À propos de la mer, Arlette Camion, le filet à crevettes a disparu alors?
Ah oui, mais il n'y a plus beaucoup de crevettes sur les plages.
Voilà.
Alors, il nous fait pas défaut celui-là. Par contre, la météo marine de votre auditeur, alors oui, pour moi, c'est toute une partie de mon enfance. C'est vrai, mon grand-père habitait au bord de la mer et c'est exactement ce que décrit votre auditeur. Il fallait se taire, c'était très important, il y avait des mots magiques.
Ce que vous nous décrivez aussi, c'est un monde dont les odeurs ont disparu. Il y a un chapitre pissotière, fumier et papier gras.
Oui, oui, oui. Ça m'a beaucoup frappé en essayant de faire le point. En effet, je crois qu'on a perdu énormément d'odeurs. D'abord, les gens sentaient mauvais en général. ils sentaient pas la rose. Mais les odeurs étaient beaucoup plus présentes.
Témoignage de Pierre qui nous appelle de Toulouse. Bonjour Pierre.
Oui, bonjour.
Alors, quel objet ?
Moi, c'est la rognotypeuse.
Oh là là ! Alors, à quoi ça servait, ça ?
Ma maman était directrice d'école à la campagne, et elle écrivait tous ses cours à la main pour le lendemain, pour les différentes classes. Et donc, le soir, une fois que le manuscrit était fait, il fallait le rognotyper, c'est-à-dire le copier avec une rognotypeuse, qu'on ancrait avec une encre violette et qui sentait très fort l'alcool à brûler, puisque voilà. Et moi, le soir, après l'école, je tournais la manivelle de la rognotypeuse, pas tous les soirs, bien sûr, mais c'est un souvenir très fort.
Oui.
Et très fort aussi olfactivement, parce que le lendemain, quand on avait les papiers en main, les élèves, il y avait quand même toujours cette odeur un peu persistante d'alcool à brûler, qui est une odeur. Moi, dès que je sens l'alcool à brûler, je repense à la rognotypeuse.
Merci pour ce témoignage. Bon, Arlette Camion, il faut parler de ce qui fait l'ouverture de votre livre, la cabine téléphonique. Avant de vous entendre, je voudrais qu'on entende Roland au standard. Bonjour Roland.
Oui, bonjour.
Vous nous appelez de Grenoble ?
Non, je vous appelle de Paris, mais c'est parce que j'ai de la famille à Grenoble.
Ouais.
En fait, moi, je vais mettre une petite touche un peu peut-être moins nostalgique, mais plutôt que de parler au participe passé ou à l'imparfait, je vais parler au présent, voire au futur, pour dire qu'au sujet justement des cabines téléphoniques, il y a actuellement, depuis maintenant plusieurs mois sur Grenoble, un collectif de gens que je connais un petit peu et qui, eux, se sont mis en tête et qui œuvrent à justement la restauration des cabines téléphoniques telles qu'on les a connues. Et donc, en fait, on aimerait bien les reconnaître de nouveau pour tous les avantages que ça a. Et donc, ce mouvement de réinstallation des cabines téléphoniques, c'est sur la cuvette de Grenoble, enfin Grenoble Centre et les alentours. Et on espère bien que ça va voir le jour prochainement.
Voilà, on suivra ça. Merci.
Il n'y a pas de nostalgie. Il y a le futur aussi.
Le futur aussi. D'autant que, Arlette Camion, ce que vous dites, c'est qu'elles étaient moches quand même, ces cabines téléphoniques. Elles étaient crado.
Oui, 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 elles étaient plantées un peu n'importe où aussi.
Et d'elles émanait un parfum de secret, en fait. On ne savait pas bien ce qui se disait, forcément, puisqu'elles étaient fermées.
Oui, mais elles étaient moins fermées que les cabines des bureaux de poste qui ont précédé celles-là. Celles-là, les cabines des bureaux de poste, c'était un peu comme un confessionnal. Ouais. Hein, on était enfermés là-dedans, ça donnait un peu une ambiance de secret. Tandis que la cabine téléphonique publique dans la rue, elle était un peu comme une cabine de douche. Alors, on se sentait pas très bien là-dedans, on avait un peu l'impression d'être tout nu, on avait envie de se cacher. Il y avait tout un rapport un peu bizarre.
Sauf que maintenant, on entend les conversations de tout le monde dans le train avec le téléphone portable et on s'aperçoit que les conversations n'ont aucun intérêt.
Oui, c'est bien dommage pour les gens qui sont un peu curieux et puis qui voudraient trouver de l'intérêt aux échanges. En fait, non, il y en a pas.
Allez, en vrac des objets pratiques ou aliments qu'on voit moins via le site internet, via l'appli, les œufs durs sur les comptoirs des cafés, la corde à sauter, tout ça n'a quand même pas totalement disparu, le tablier en classe, le martinet, faut-il en être vraiment nostalgique, nous dit Yann, et encore une cassette audio et un dernier témoignage, celui de Marie-Josée. Bonjour Marie-Josée.
Oui, bonjour à
tous. Vous nous appelez de Lyon. Alors, l'objet disparu, vous, c'est la Jeannette. Qu'est-ce que c'est, ça, la Jeannette ?
La Jeannette, c'est un objet qui ressemble en beaucoup plus petit
à une planche à repasser, donc avec un bout, une extrémité large et une extrémité plus fine, et on posait cet objet sur la planche à repasser, et ça servait à repasser très précisément, par exemple, des fronces ou des hauts de manches, par exemple, sur une chemise.
Oui.
Voilà, et bon. C'est un objet qui me manque aujourd'hui quand je fais du repassage, et parce que j'arrive jamais à bien faire...
Je ne vous dis même pas ce qui se passe quand moi je repasse les chemises, ce que je fais, mais ça, c'est pas toujours terrible. Arlette Camion, ça vous manque la Jeannette aussi?
Oh, ben j'en ai encore une. Vous savez, je suis peut-être un peu dinosaure.
Et vous avez un cendrier martini aussi?
Ah non.
Bon.
mais il me manque.
Bon. Et une gamelle d'ouvrier, vous en avez?
Oui, j'en ai encore une, quelque part.
Bon, merci beaucoup d'avoir dialogué avec nous, Arlette Camion. Et je pensais pas obtenir un tel succès au standard. Les temps ont changé, c'est édité aux presses universitaires de France. Et vous aurez compris que c'est une très bonne idée de cadeau pour éviter de parler du Covid ou de l'élection présidentielle. Et puis, on parlait de la météo marine. Le cher Nicolas Demorand y a consacré un de ses 80 secondes dans le 7-9 de France Inter récemment. Vous pourrez retrouver ça facilement sur franceinter.fr. 13h45.
France Inter. Le 13-14.
À suivre, le vif de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Bruno.
Nous parlons de Notre-Dame aujourd'hui.
Oui, dans les repas de Noël, on peut parler du réaménagement intérieur de Notre-Dame. C'est une polémique sans trop de conséquences.
C'est ce que nous ferons avec vous dans 10 minutes. Avant cela, il y aura le feuilleton Une semaine dans la vie d'un prêtre, la place des femmes dans l'église aujourd'hui avec le prêtre Stéphane Lesson. Et tout de suite la musique. Des personnalités nous parlent de musique classique. La vie serait moins belle sans musique classique, en effet. Bonjour Anna Sigalevitch.
Bonjour Bruno.
Qui avez-vous rencontré aujourd'hui?
Aujourd'hui, Charline Vennenecker. Pour elle, la vie serait moins belle sans... Bonjour Charline Vennenecker.
Bonjour Anna.
Qu'est-ce qu'on entend?
On entend « Romance sans parole ». Opus 17, numéro 3, de Gabriel Fauré.
Pourquoi est-ce qu'on entend ce morceau, Charline Vennenecker?
Parce que, lorsque j'étais enfant et adolescente, j'ai fait à peu près une petite dizaine d'années de cours de piano à l'Académie de musique en Belgique. Et c'est le morceau qui m'a le plus émue, que j'ai joué, et qui m'a le plus rendue fière d'avoir réussi à le maîtriser. Et j'ai un souvenir ému, de même quand je retrouve la partition chez moi dans ma bibliothèque. Et c'est ce qui m'a fait découvrir Gabriel Fauré. Et c'est un compositeur que j'adore pour sa finesse, sa délicatesse, sa mélodie. De tous les morceaux de piano que j'ai joué, c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, donné le plus de plaisir et qui m'a le plus ouvert les portes de la sensibilité en musique.
C'est ça, ça vous a donné accès à vous-même, d'une certaine façon, en tout cas à votre sensibilité.
Oui, quand on l'entend, c'est un morceau dans lequel, bien sûr, il y a la technique, mais au-delà de ça, il y a l'émotion qu'on peut y mettre. Et j'imagine que ma professeure de piano m'a fait jouer ce morceau quand j'avais 16 ans pour voir quelle sensibilité, quelle émotion j'étais capable de mettre dedans. Parce que quand on apprend le piano, on apprend la technique, le rythme, donc on a un métronome. Imaginez ce morceau avec un métronome, il y a presque parfois des tout légers contretemps qu'on peut se permettre quand on a envie d'y mettre une émotion dedans. Et donc je pense que quand on a passé un certain cap dans le travail de l'instrument, c'est le moment où sans doute on est capable de jouer. C'est un peu, je sais pas, peut-être comme au ski. Si on joue ce morceau de Gabriel Fauré, c'est qu'un jour votre prof vous a dit « maintenant t'es capable de faire une piste rouge ».
Alors vous avez étudié le piano, donc petite fille, comment ça a construit la personne que vous êtes? Est-ce que ça a compté cette rigueur de l'apprentissage de la musique, Charline?
Ça a été fondamental parce que ça m'a appris la rigueur, l'acharnement au travail, la concentration. Et je me suis rendu compte que finalement, c'était pas l'école qui m'avait appris tout ça, mais mes activités extrascolaires. La concentration, c'est autant le sport, je pratiquais le tennis, que le piano, et l'un rendait service à l'autre. Ma concentration pour gagner un match de tennis m'aidait beaucoup dans ma concentration pendant les examens de piano. c'est une école merveilleuse parce que ça doit être comme dans le sport où on sent vraiment le travail qui paye. Quand vous apprenez à l'école, bon ben, vous dites à quoi ça sert, on se rend
pas. J'ai fait mes devoirs.
Voilà, c'est ça. Mais quand on sait que l'acharnement au travail, la concentration, la volonté, la régularité, toutes ces choses dont on a besoin plus tard, elles se transforment tout de suite en plaisir une fois qu'on domine son morceau et qu'on peut s'écouter jouer, ben là, je pense que tout le monde comprendrait à quoi ça sert de bosser, en fait.
Avec quel morceau vous avez envie qu'on se dise au revoir, Charline? Un morceau que vous prenez plaisir à écouter, à réécouter, à re-re-re-écouter?
Ben, je vais réécouter Gabriel Fauré, parce que j'aime l'idée de l'avoir découvert en le jouant. Et La Sicilienne est vraiment un morceau apaisant, réconfortant, absolument mélodieux, doux, fin. Je lui trouve toutes les qualités. Et apaisant, en ce moment, je pense qu'on en a besoin. Je pense qu'en 2022, pendant la campagne présidentielle, je vais beaucoup écouter ce morceau pour respirer par les naseaux.
Charline Vanhoenacker et Gabriel Fauré. Anna, dernière invitée de la semaine, demain, ce sera qui?
Ce sera Régis Geoffrey.
La vie serait moins belle sans réalisation. Anne Weinfeld, à demain. Le feuilleton, une semaine dans la vie du prêtre Stéphane Le Sonne, qui exerce à Saint-Renan, Nord-Finistère. Jérôme Cadet a commencé hier à parler avec lui du rapport Sauvé, qui a établi que 330 000 personnes ont subi des agressions sexuelles dans l'Église depuis les années 50. Parmi les questions ouvertes, directement ou indirectement, par ce rapport, la place des femmes dans l'Église. C'est l'épisode 4 du feuilleton.
Je vous amène quelqu'un.
Bonjour.
On est dans le bureau de la responsable de la catéchèse. Mais plus que ça, c'est catéchèse et un peu pastoral familial, un peu. Hein. Voilà, de la famille. Anne-Sophie. Et en face d'elle, Sophie. Parce que comme ça, au moins, je ne perds pas le fil. Il y a Anne-Sophie et Sophie, c'est ça. Et Sophie est en train de donner un coup de main à Anne-Sophie, tu vois, pour faire des petites cartes de Noël aux personnes qui résident en EHPAD. C'est les enfants qui vont offrir ça. C'est ça, Anne-Sophie, Sophie.
Ce sont les enfants qui les ont faites. Nous, on fait les finitions. Et seront contentes parce que certaines ne voient pas grand monde et ressortent d'une année sur l'autre leur petite carte qu'on fait parce que c'est devenu une habitude. Hein, tous les ans, les enfants de l'école Notre-Dame de Liesse fabriquent quelque chose pour les personnes âgées.
Pour tous les EHPAD ici du coin ou un seul?
Seulement l'EHPAD de Saint-Renan. Il faudrait vraiment mobiliser toutes les écoles. Ce qui arrive pour les prisonniers. Je mobilise presque toutes les écoles pour... faire des cartes pour les prisonniers.
C'est une maison d'arrêt qui est près d'ici?
La maison d'arrêt de Brest. Et donc on a un animateur qui tous les ans va à la prison de Brest, qui est visiteur aussi, et qui m'a demandé si on pouvait ponctuellement faire des cartes pour les prisonniers. Et donc là, dans ce cas-là, je mobilise un peu plus d'écoles.
Ça, c'est pas forcément à Noël?
C'est pas forcément à Noël. C'est pas forcément à Noël. C'est vrai qu'on essaye sur l'année de faire plusieurs projets de solidarité. Pour leur expliquer que être chrétien, c'est aussi être solidaire et penser aux autres.
Ah, tiens, les affaires reprennent. Qui m'appelle?
Bon, bah, bonne continuation en tout cas.
Oui, allô? Oui. Ah bon?
Parmi les préconisations, parmi les décisions qui ont été prises par les évêques, il y a à faire une plus grande place aux femmes dans le fonctionnement de l'Église. Est-ce que ça te paraît être une bonne chose?
Bah, c'est déjà une bonne chose parce que les femmes sont très présentes dans l'Église, en fait. Tu rencontres ma secrétaire, c'est une femme. Tu rencontres la responsable de la catéchèse, c'est une femme. La pastorale des jeunes, c'est une femme. Il y a beaucoup de femmes dans l'Église, c'est très très bien. Moi, je pense qu'elles équilibrent, en fait. Les femmes, elles équilibrent notre rôle, et c'est pas un truc que de mecs. Et c'est très bien, je trouve. Et elles donnent des idées neuves, des idées nouvelles, mais elles sont présentes dans l'Église, hein. Elles n'ont jamais été absentes de l'Église. Moi, j'ose dire que l'Église ne tiendrait pas si les femmes n'y étaient pas.
Et il faut quand même des hommes qui décident. Hein.
Ouais, oui, bien sûr, mais de moins en moins quand même, parce que dans les conseils épiscopaux, les conseils des évêques, tu as aujourd'hui des femmes. Dans les équipes pastorales, tu as des femmes, elles sont partout. Et c'est avec elles qu'on décide. Enfin, moi, je décide pas comme un dictateur, hein. J'écoute. Après, bien sûr, il faut que celui qui a la responsabilité prenne la décision. Mais moi, je fais une confiance aveugle à celles qui sont à mes côtés pour veiller sur la paroisse. Et il y en a beaucoup.
Il y aura une femme prêtre un jour à Saint-Renan ?
Pas de mon vivant. Pas de mon vivant. Je crois pas que je verrai ça de mon vivant. C'est pas parce que je suis contre, forcément. Quoique, je pense qu'elles ont une place qui... voilà, il y a les prêtres, et puis il y a les femmes, c'est le mec qui parle. Donc ça sera jamais bien, c'est ce que je dirais. Pas de mon vivant, je crois pas. Et j'ai 50 ans, donc bon, un peu de temps encore devant moi, peut-être. Mais non, je crois pas.
Et dernier moment. Avec le prêtre Stéphane Lesson, ce sera demain. Nous parlerons évidemment de la préparation de Noël, feuilleton réalisé par Lucie Lemarchand.
France Inter, le 13-14.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire. Comment faut-il non pas restaurer Notre-Dame de Paris, les décisions sont actées, mais en réaménager l'intérieur? C'est le sujet du jour.
Oui, la restauration, c'est l'affaire de l'établissement public, dirigé par le général Georges Lain. Circulez, il n'y a plus rien à redire. La charpente sera refaite à l'identique avec quelques portes coupe-feu. En plus, comme dit Stéphane Bern, les gens veulent que ce soit comme avant. Le réaménagement intérieur, c'est une autre affaire. Il dépend d'un autre financement, qui n'est pas nécessairement trouvé, et d'une autre autorité, celle de l'affectataire qui y organise le culte catholique. L'archevêque de Paris, donc, enfin, quand il y en a un. Est-ce que c'est la démission express de celui-ci qui a précipité une polémique qui mûrissait? En tout cas, Stéphane Bern a piloté une pétition qui est parue le 7 décembre dans le Figaro et la Tribune de l'Art sous le titre « Ce que l'incendie a épargné, le diocèse veut le détruire ». Les adversaires du projet du diocèse dénoncent pêle-mêle la relégation des statues de l'époque de Viollet-le-Duc, des confessionnaux et l'introduction à la place des humbles chaises de paille, de bancs aluminium posés sur roulettes. Alerte générale, saccage. On parle même de projection sur les murs. En arabe, parfois, du street art dans la cathédrale.
Bon, que pensez-vous de cette affaire ?
Bon, faut pas compter sur moi pour dire le droit. En matière d'espace liturgique, je ne dispose pas des compétences nécessaires. Soit dit en passant, les quelques 100 grandes signatures réunies par la pétition non plus. Il faut aussi se souvenir qu'à peu près à chaque fois que des signes contemporains sont posés dans un édifice religieux, les mêmes réflexes automatiques jouent dans les années 50 contre le Christ, pourtant saisissant, de Germaine Richier dans la chapelle du plateau d'Assis. Plus tard, contre les vitraux d'Alberola ou de Honegger dans la cathédrale de Nevers, ou ceux de Soulages à l'abbatiale de Conques. Nos pétitionnaires disent bien sûr que faire ces rappels n'a pas de sens. À Notre-Dame, il ne s'agirait pas de création, mais d'une pauvre imitation des toccades du moment où, je cite, le kitsch le dispute à la niaiserie. Les lumignons des bancs seraient ainsi destinés à entourer les fidèles d'un halo de lumière, comme dans les expositions commerciales immersives qui se multiplient un peu partout.
Est-ce que dans cette affaire, le ministère de la Culture a son mot à dire? Il participera nécessairement au financement?
Une commission y existe qui est chargée de donner des avis généralement décisifs. C'est la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Sa section spécialisée, composée de 26 membres, s'est réunie le 9 décembre et le Figaro du 10 a dû titrer « La commission valide l'aménagement », recadrant cependant certaines propositions, notamment, je vous rassure, celle des bancs aluminium. Alors, à propos d'éclairage, il faut en chercher un plus précis sous la plume d'un des membres de la commission dans la Croix du 13 décembre. Alexandre Gady, grand spécialiste en la matière, pose la vraie question. À Notre-Dame, demande-t-il, faut-il partout arrêter les compteurs à Viollet-le-Duc? Est-il possible que le 21e siècle y ait sa place, comme le 20e l'a eu quand le cardinal Lustiger y a installé un hôtel contemporain en 1989, sans d'ailleurs beaucoup solliciter l'avis de quiconque.
Alors, la messe n'est pas dite, écrit Alexandre Gady, qui attire l'attention sur un sujet qui intéresse tout le monde, pas seulement les fidèles, l'aménagement du parvis.
La beauté muette d'un monument religieux peut-elle encore parler d'elle-même sans un centre d'interprétation à ses côtés, comme un bateau ravitailleur au flanc d'un paquebot? Bien des cathédrales s'en sont dotées, même les plus modestes, comme Saint-Sanson, à Dol de Bretagne, qui a son cathédraloscope. Strasbourg, elle, a développé un musée de l'œuvre Notre-Dame, sans équivalent ailleurs, en tout cas pas dans le diocèse de Paris, qui a fermé le sien. Alors, où installer ce centre d'interprétation? Sur
sous le parvis. Alexandre Gady a une idée, à l'Hôtel Dieu, dépeuplé de ses malades. Plutôt que de confier ce bâtiment à la grande histoire, à un opérateur privé, afin de renflouer les finances de la PHP, pourquoi ne pas l'amarrer à Notre-Dame et en faire le lieu qui aidera à la comprendre. Alors si vous mettez, Bruno, ce sujet de l'Hôtel Dieu sur la table à Noël, avec tous les échos qu'il évoque en temps de pandémie, vous êtes assuré de provoquer beaucoup de rebonds dans une conversation qui n'est pas près de finir.
Jean Lebrun, le vif de l'histoire, dans quelques instants, après le flash de 14h, ce sera l'Atéro Carré, comme tous les jours. Mathieu Vidard nous parlera des océans, comment se porte le monde du silence.